L'union des maires dans le cadre de négociations qui durent, de discussions avec la ville de Marseille, ont pu se mettre d'accord il y a une huitaine de jours, ce qui fait que j'avais fallu ce conseil le 5, après le 13, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à aujourd'hui. Le SAN, en ce qui nous concerne, délibérera également cet après-midi. Mais bon, je vois malgré tout que le quorum, a priori, est atteint, et je vais vérifier ça. Monsieur Alonso, Frédéric Arnoul, Gérard Bartoli, Lisiane Beltrando, dont Éric Hamler nous procure jusqu'à ce qu'il arrive à Madame Charbonnier. Madame Charbonnier est présente, Pascal Cour, Sybille Gaillard, je ne sais pas si j'ai le procure, non, je n'ai pas le procure, il n'y a pas de légal. Fabienne Bruninger, je vais me la donner, je ne sais plus où elle est. Elle est là, voilà. Fabienne Bruninger, absente en procuration, donc à Frédéric. Christine Hugues, Brigitte Leboeuf, Gérard Lessig, Jérémy Goubet, Evelyne Goubet, Sandrine Martinez, excusez, Dominique Bollard, donc, a perdu sa maman hier soir. Donc, elle est partie à Lyon pour l'enterrer. Elle a donné procuration à M. Bartoli. Francis Nardi, Claudette Pagès, pas une nouvelle, François Pandolfi, Michel Perronnet, Jean-Louis Portolano, Gisèle Raymond, Patrick Romboul, Marc Royer, Manuel Ruiz, Tessier, Patrick, pas de nouvelles, et moi-même. Ah si, Tessier, Patrick, j'ai une procuration pour Madame Leboeuf. Dans les procures, celle-là, je ne l'ai pas marquée, c'est Dominique Mollard à Gérard Bartoli. Donc, 1, 2, 3, et la quatrième, Camler, Charbonnier. Alors, laquelle vous dire?
Il y en a 4.
Elle ne tourne la seconde partie, elle n'en a plus que 3. Boulanger, Fabien Boulanger, voilà. Donc, Arnaud. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Les présents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le compte est bon. Et 4 procures, ce qui fait 24 et 3 absents. Donc, on va attaquer par le point 1, et d'ailleurs, monsieur Ruiz, les points 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre que vous jugez, on votera après dans le bon ordre, mais combien de délibérations qui se chevauchent. Alors, la parole.
Le point 1, c'est une décision administrative au budget comité. Lors de la présentation du budget, on vous avait expliqué que, au niveau des dépenses imprévues, les inscriptions budgétaires, ça a été déposées, mais sur 450 000 euros, ce qui représentait 7,8% des dépenses réelles de la section de fonctionnement au budget. Or, il se trouve qu'une erreur matérielle a fait en sorte que on nous a fait remarquer que ce n'était pas 450 000 euros. Cette 50% représentait 416 000 euros. Donc on vous demande de mettre à ce compte 416 000 euros, c'est-à-dire d'y retirer 34 000 euros qui sont déposés, versés au compte des dépenses du chapitre 67, comme là où on a été mis tout le résultat des précédents de l'exercice précédent. Voilà donc la proposition de l'exécutif. La proposition de décision modificative.
Y a-t-il des questions? C'est une ordre administrative. Pas de questions? Qui contre? Qui s'abstient? 4 donc. Merci, Jean-Paul Vech. Oui. Dotation de solidarité, Ouest-Provence.
Donc, là, je vais inverser l'ordre de la ville numéro 2 et numéro 3, puisque la numéro 2 découle de la décision numéro 3. Donc, nous avons parlé de la ville numéro 3, c'est-à-dire refonte et des fonds de compensation simples Ouest-Provence. Le code général des collectivités territoriales dispose que les syndicats d'agglomération nouvelle doivent constituer un fonds de coopération destiné à leurs communes membres. Donc, suite à la suppression de la taxe professionnelle, nous vous proposons une refonte, compte tenu des implications de la réforme fiscale, nous vous proposons une refonte et de redéfinir les modalités d'attribution de ce fonds de compensation. Il est proposé, d'une part, que le fonds de compensation soit constitué à partir d'un prélèvement sur un panier de ressources composé des ressources fiscales et des dotations versées par l'État au sein de la Provence. Et d'autre part, que les différentes dotations du fonds de coopération, la dotation de garantie, la dotation pour accroissement de population, la dotation de péréquation nouvelle, la dotation de péréquation et abondement de millions, seront fondus. Alors, on a deux tableaux qui vous sont présentés. Dans le premier tableau, il détaille le montant de chacune des dotations qui composent la dotation de coopération, avec ce qui est attribué par commune au niveau de l'attribution de garantie, ce qui est attribué par commune au niveau de l'attribution de la population plus la péréquation, au niveau de la nouvelle attribution de péréquation et au niveau de l'abondement de millions. Donc, ce qui fait un total. Ce total, ces dotations vont être réunies en une seule dotation qui reprend les sommes cumulées dans le premier tableau. Donc pour un montant de 67 469 751,89 €. Et donc, grâce à la somme de 1 027 711,75 € pour de dotation en 2011.
Y a-t-il des questions?
Parce que c'était la somme qui était prévue. C'était la somme qui était prévue.
Si vous voulez, c'est pour. Ça nous permet d'avoir un abondement définitif et qui gèle cette somme, puisque nous avions des attributions fixes. C'est des attributions qu'on peut tous les ans en fonction des soldes des budgets du SAN, mais qui n'étaient pas pérennes. Ça permet d'avoir les 1 027 000 euros de pérenne pour la commune, dans un contexte où les budgets et où les intercommunalités sont à géométrie variable, ça assure aux collectivités du SAN une recette pérenne pour d'éventuelles autres discussions, s'il y en avait. Voilà. Mais la somme est la même.
La somme est la même. Le signal de 2010, elle était de 900 000 euros et là, elle est de 1 million 27 000.
Je pourrais rajouter également, ce qui est bien, c'est qu'on met les critères. On voit les clairs, même si on pourrait y
parler. Il y avait déjà des critères.
On m'a jamais parlé de critères. On savait qu'on se recevait cette somme-là.
On en a parlé
Non, il n'y a pas de critères. Les critères, non. Les critères sont définis pour le calcul des sommes au sein de l'Ouest-Provence. Pas là, là c'est un regroupement de sommes existantes. Et les critères dont on parle sont les critères dans l'Ouest-Provence et pas sur cette ville, qui font que les répartitions sont faites avec la population, le nombre d'HLM, etc. Là, c'est pas ça, c'est un regroupement de diverses lignes qui étaient pérennes ou pas pérennes, qui se retrouvent toutes sur une seule dotation communale de 2011, qui est 2027. C'est 2027, on les avait encaissés et on les avait, et tous les ans on progressait avec des sommes qui étaient plus ou moins pérennes. Là, ça gêne la pérennisation des sommes de 2010 à 2011 et pour 2012.
Mais ça ne pourra évoluer que si les critères, les compétences évoluent.
Non.
S'il y a les compétences du SAN évoluées.
Ça n'a rien à voir. S'il y a des compétences, ça sera sur un transfert de charges, ce qu'on appelle la dotation de coopération, qui fait qu'effectivement, ça, c'est une somme que le SAN toutes les sommes colossales dont aux communes qui sont pérennes, qui sont maintenant figées par cette nouvelle délibération. Avant, sur les 1 million 27, il y en a qui étaient pérennes, il y a une attribution de garantie qui était pérenne, d'autres qui n'étaient plus pérennes et qui étaient versées en fin d'année, en complément, etc. Là, on a gelé ce montant, ça ne change rien pour le SAN, à part que le montant pour les communes ne change pas, à part qu'aujourd'hui, notre recette est pérenne, si demain ils vont fusionner avec Marseille, etc., là, il faudrait que la nouvelle Interco prenne en compte dans son budget qu'il faut verser 1 million 27 à Grand, 14 millions, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Les critères de répartition de ces sommes-là, de diverses lignes-là, sont des critères définis par West Provence, qui dépendent de nombre d'habitants, de pourcentage sur les problèmes de nombre d'HLM, y compris on essaie d'y intégrer les zones Céveso par rapport à FOS, etc. Mais c'est le calcul à l'intérieur du SAN. Faut pas le calcul chez nous. Voilà, c'est le tout d'après. C'est celle d'après. Ça, c'est pour globaliser les sommes qui étaient versées en plusieurs fois, sur plusieurs lignes. Elles seront versées maintenant sur 2016, sur une seule ligne, qui est la ligne de dotation de coopération 2011 du SAN aux communes.
Et il est précisé que le versement de dotations supplémentaires hors transfert de compétences devra alors se réaliser par l'intermédiaire de la création d'une dotation de solidarité communautaire que nous allons voir au point.
Ouais. Qui est la deuxième partie. Là, on gèle la situation à juillet. Donc, point 3 avant point 2, des questions, et d'autres questions. Pas de questions, donc qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Donc maintenant, on parle de l'évolution est possible.
Là, donc, c'est la création de la dotation de solidarité communautaire par le fait de l'Est Ouest Provence. Donc, toujours, bien entendu, suite à la suppression de la taxe professionnelle, donc il y a un nouveau panier de ressources d'environ 62 millions d'euros, qui n'est pas suffisant pour financer le fonds de coopération qui représentait en 2010 un montant de 65 millions d'euros. Et donc, dans ce contexte, le SAN Ouest-Provence propose d'instaurer une dotation de solidarité communautaire au sens de l'article 1609 du Code général des impôts. Le SAN Ouest-Provence disposerait alors d'un outil financier lui permettant de poursuivre le versement des dotations supplémentaires aux communes selon des critères péréquateurs. Il est proposé que ces critères soient les mêmes que pour les versements du dernier complément de ressources tel qu'explicité dans la délibération 584-10, à savoir la pondération en fonction de la population 55%, du potentiel financier 15%, des logements sociaux 16%, et installations placées par la protection de l'environnement 15% aussi. Au total, donc 100%. Vous avez une annexe technique 30 bien détaillée à la fin de la délibération. Vous n'avez pas pu en parler, je pense que vous avez déjà. Voilà. Alors, elle pourra donc, cette enveloppe, progresser, bien entendu, et, ou diminuer en fonction des critères de répartition pourront également être sujet à évolution. Ceci donnera une plus grande liberté d'action, contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure, qui est fixe.
Sachant que les sommes là seraient réparties en complément, ne seraient pas pérennes, c'est-à-dire qu'on a les 1 million, je parle pour nous, on a les 1 million, on peut dire, bon, on a 10 millions à se répartir, suivant la clé de répartition, les 1 million à se répartir, suivant la clé de répartition, Grand sera droit à 200 000 euros. Ces 200 000 euros ne seraient pas pérennes, on aurait les 1 million pérennes et 200 000 pas pérennes, pour qu'ils deviennent pérennes. Il faudrait reprendre une délibération comme on l'a fait tout à l'heure pour les réintégrer dans la partie pérenne et s'assurer de, mais comme là on ne sait pas ce qui va rester, c'est plus tard. Voilà. Mais la tendance étant au fur et à mesure d'intégrer dans la pérennisation des dotations de fin d'année qui sont un peu vos du budget.
Alors donc la dotation, le montant de la dotation de solidarité communautaire sera fixé tous les ans. Il est fixé pour 2011 à 4 millions d'euros. Et vous avez donc en fonction des critères que nous avons dit tout à l'heure, comment sont répartis ces 4 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on lance 3,52% qui représente 140 806 euros. À préciser quand même que ce montant intègre la dotation de 150 000 euros que le syndicat d'agglomération Provence est engagé à verser aux communes jusqu'en 2013 dans le cadre de la manifestation Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la crise. Voilà, nous demandons donc d'approuver cette décision.
Des questions.
C'est une décision à faire trouver par toutes les communes avant d'être arrêtée par les syndicats
d'agglomération. Est-ce que vous pouvez rappeler ou préciser les critères qu'on appelle potentiel financier et les installations classées par commune?
Alors, vous avez
le potentiel financier, c'est la recette propre de la commune. Quand qui est en fonction des dividendes et des recettes spécifiques à la commune, l'installation classée, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour prendre en compte des communes, essentiellement la commune de Foss, un peu la commune de Port-Saint-Louis, qui sont grévées sur leur territoire dans l'impossibilité de construction, etc., parce qu'ils ont des périmètres assez réseaux autour de grosses entreprises qui sont essentiellement celles qui nous rapportent en plus des sous. Donc pour éviter que la commune de Foss, à majorité, qui ramène 82% des recettes, soit doublement pénalisée, à la fois parce qu'elle met dans le pot commun les recettes qui arrivent essentiellement de chez elle, qu'elle répartit, et en même temps, elle ne peut pas se développer parce qu'il y a ces entreprises, ces réseaux sur leur territoire, il y a un périmètre qui fait quasiment la totalité de la commune, le fait qu'ils ne peuvent pas se développer, pas construire. Donc on a pris en compte 15%, ce qui n'est quand même pas terrible, cette charge dans la commune de Foss, pour un peu leur restituer une partie des recettes qu'ils nous restent, sachant que d'autres collectivités territoriales, je prends pour la plupart, je prends Salon avec Aubert, je prends Martigues, la commune qui reçoit et la commune qui encaisse. Là, Foss nous verse 82% de nos recettes et repart à peu près avec 25 ou 30% de le chiffre que vous avez. Pose 25,67, alors qu'ils amènent 85% des recettes du sel. Donc c'est pour prendre en compte ce critère d'usine polluante et pénalisante sur leur territoire.
Le mode de calcul est expliqué par les...
D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci.
Alors, au suivant. Cession de matériel de photo du service de communication. Lors d'un dernier conseil municipal, lors du budget d'investissement, nous avons accepté l'acquisition d'un nouvel appareil photo pour le service de communication qui a été acheté peut-être mois déjà et qui rend de grands services au service de communication. Bien entendu, l'ancien appareil photo, la loi nous autorise donc à le mettre en vente et nous sommes libres de choisir de céder des biens de gré à gré. Nous vous proposons donc de vendre cet appareil Canon PowerShot G11 à un acheteur qui se propose de l'acheter et la somme a été fixée, on est d'accord, à 350 euros. À titre indicatif.
Je précise que nous avons donc proposé cet appareil au personnel, que le personnel a donc fait une enveloppe cachetée, je dirais, avec des enchères. C'est la personne qui a proposé le plus, qui a donc elle a proposé 350 euros, tous les autres ayant proposé moins. Donc on l'a vendu au plus offrant.
À titre indicatif, il avait été acheté 600 euros il y a 3 ans.
Voilà.
Oui, moi j'avais une question pour nous sur cette vente-là et l'autre qui a eu lieu avant là, pour le matériel de Pinsou. Je voulais savoir justement s'il y avait eu un règlement intérieur.
Qui de l'argument intérieur, si vous avez cher, vous avez le bloc acheté.
Et ma deuxième question aurait été d'en faire don à une association pour qu'elle fasse son reportage de fin d'année.
Vous choisissez l'association comment? Vous auriez proposé une cocoune?
Peut-être éventuellement attirer au sort entre les associations. Je ne sais pas.
C'est une proposition.
Voilà.
Donc, merci. Donc, je mets au voile la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Il a mis FM. 3 abstentions. Merci.
Point numéro 5. Acceptation d'un remboursement de sinistre. En avril 2011, une barrière de la ville sur le boulevard de Saint-Profil avait été abîmée par la VIP. Donc, la responsabilité de la conductrice était engagée et le remboursement du sinistre à hauteur de 154,28 euros nous a été proposé. Nous demandons de l'accepter.
Question.
Oui, voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi, alors c'est une absorption, une conductrice est responsable d'avoir aplati une barrière. Il faut qu'elle fasse fonctionner son assurance, et donc elle prend un malus éventuellement, alors que lorsque c'est un autre qui l'a mis, lui a aplati un portique sur le corail, lui, son assurance est commis, ça, ça va faire.
Oui, vous avez raison.
Je
n'ai pas de réponse. Je pensais que le charbonnier avait essayé de rattraper votre vote d'autre fois en proposant de donner un appareil photo gratuitement à une association pour essayer de montrer cette volonté positive d'ouvrir aux associations, vous faisant cadeau de trucs. Et je vois que vous revenez encore à la charge. Donc, acte. Très bien, nous renotons la faveur au particulier. Donc je mets aux voix la délibération qui est contre. Une qui s'abstient. Donc une et l'abstention. Un contre. Merci. Alors, madame Cour, façon d'une régie de recettes.
Oui, donc la commune a créé diverses régies de recettes afin d'encaisser les différents produits concernant la LFH, la continuité scolaire. Et dans le cadre de cette organisation et en vue des paiements démonétisés, il est préférable de constituer à ce jour une seule et même régie pour l'encaissement des différents produits. Donc vous avez les décrets et arrêtés que les lits.
Si c'est nécessaire. Quelqu'un souhaite qu'on lise tous les arrêtés nécessaires à la. Non, pas de demande. Non, pas de demande.
Donc, il est voulu donc de créer une recette auprès du service enfants jeunesse à compter du 1er septembre 2011. Cette régie sera installée en milieu de branche service enfants jeunesse du boulevard du Saint-Gilles et fonctionnera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Donc, cette régie ainsi constituée encaissera les prestations suivantes, l'ensemble de tous les produits droits d'inscription hebdomadaire, mercredi, rendez-vous, journée, séjour, concernant les accueils de loisirs sans hébergement pour les 3, 6 ans, 5, 10 ans, 10, 17 ans, les produits concernant les repas à la cantine scolaire, les produits du périscolaire, les produits concernant les droits d'inscription au cours d'anglais. Les paiements encaissés seront encaissés sur les mois suivants, numéraire, chèque bancaire, postaux ou assimilés, carte bancaire, virement, chèque vacances ou chèque emploi-service universel. Ils seront perçus contre remise à l'usager de facture ou de soutenance. La délibération précise également que le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 euros. Que le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public à signataire le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le montant utilisé au minimum une fois par mois. Que le régisseur est assujetti à un fonctionnement de confiance sera fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur et qu'il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux sera précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Donc, cette délibération abroge à compter du 1er septembre 2011 l'ensemble des actes relatifs aux régies de recettes actuellement en vigueur sur la perception des produits relatifs à la cantine scolaire, périscolaire, inscription à LSH, 3, 6 ans, 7, 11 ans et 12, 17 ans.
Merci, je crois que ça permet de normaliser surtout ce qui est nécessaire puisqu'on va pouvoir payer par Internet, qui d'ailleurs n'est pas facile à monter. Les services juridiques, depuis 2-3 ans, nous disent qu'il faudra arriver à des versements comme ça. Le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts, ou alors qu'ils nous mettent des contraintes administratives, pas possible, on est salier, on est
ben, je crois que là, on a listé avec la spécialiste de l'informatique de la Trésorerie Générale à Marseille, le TP de Salon et notre fournisseur de logiciels. On a fait un compte rendu de réunion qui a eu lieu, je crois, au mois de mai, là, dans lequel on va dire, serrié toutes les étapes. La fusion des régies, je crois, doit être l'étape numéro 4 ou 5 sur une liste de, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 32 étapes ou quelque chose comme ça avant de pouvoir. Alors, il y a des étapes qui sont, dernières 32, qui sont l'histoire de 3 secondes, hein, par exemple, une test technique, hein, voir s'il y a une synchronisation des données, etc. Mais bon, il y a en tout 32 étapes à respecter. Mais bon, celle-là, c'était important. C'est qu'un morceau de papier, mais il a fallu souffrir pendant un mois et demi pour l'avoir. L'idée étant de fusionner les registres, parce qu'il faut passer par une tiers de confiance hein, pour sécuriser les paiements par Internet. Et pour des questions de process informatique et de coûts aussi, il faut une tiers de confiance par régie. Donc il était fortement conseillé de fusionner toutes les régies qu'on avait à une seule. Alors, après, ça posait des problématiques sous-régie, pas sous-régie, enfin, je vous passe les détails. On vient a priori franchir l'étape numéro, donc je crois, 4.
C'est vraiment un chantier. Donc, finalement, on y arrive. Je crois que ça sera plus quand même pour les gens pour payer, pour de la maison, pour réserver, puisqu'en même temps, pour réserver, on peut
plus. Réserver, payer.
Ce qui n'empêche pas que ce que le souhaite, c'est qu'on continue à payer en espèces, continue à payer un chèque de cadeau, etc. C'est une grosse partie, je pense. Réglera par virement. Donc voilà les modifications administratives nécessaires à cette mise en route. Des questions. Il n'y en a pas. Qui contre, qui s'abstient. Merci. Monsieur Nardi.
Oui, c'est le travail de rénovation de la Paris. C'est pour les modifications du cours professionnel de l'opération concernant une subvention au conseil général. Nous l'avions estimé au début à 20 903 et nous étions bien en dessous de ce que nous avons besoin. Et nous la modifions donc aujourd'hui pour 69 025 € hors taxe. Subvention au conseil général 80%, 55 220 € et autofinancement de la ville. 15 805 €.
C'est la reprise partielle des chemins, c'est-à-dire c'est le bouchage et les trous, quoi, pour ça. C'est pas du mouvement, c'est le bouchage et les trous. Il s'avère qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc, du coup, oui, vas-y.
Oui, il n'y avait pas eu un premier devis de fait.
Si, on avait, mais on avait fait, en fait, on n'avait pas fait de devis. On avait estimé à ce que l'on avait fait il y a 2 ans, c'était de l'ordre de 20 000 € qu'on avait actualisé. Il s'avère que quand les entreprises ont fait le tour, puisqu'elles étaient tenues dans le cadre d'appel d'offres de faire le tour de tous les chemins, qu'on a remonté tous les chemins où il y a des trous, entre le moment où on avait fait le devis, c'est-à-dire l'hiver dernier et là, ça s'est beaucoup dégradé, du coup on en a... Du coup, comme on est à 80%, on modifie le montant pour tenir 80% sur le complément, sinon on paye cash le complément. Voilà.
Mais c'est l'écart qui est important.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il y a quand même des morceaux qu'il faut qu'on envoie non plus des trous. Il y a quand même des morceaux en rectangle, donc carré, des gros morceaux. Ce n'est pas bon, je pense que ça, tout le monde les connaît, mais c'est bien. C'est important. Hein. Ça, on les a fait les morceaux.
Voilà. D'autres questions ?
La question, c'est notre étonnement au moment du budget prévisionnel. Voilà, qui a été voté en
France. On était parti sur le montagne il y a 2 ans, mais bon, c'est le chemin.
Ça me paraît à l'avance.
Voilà. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une résolution. Merci. Alors, prime de fonction et de résultat. Les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, je dis maintenant les pouvoirs publics, font depuis quelques années des passerelles entre les fonctions de l'État, armée, sécurité sociale, éducation nationale, etc., et les collectivités territoriales pour permettre à des agents de la fonction publique de passer dans le corps d'État ou inversement. Compte tenu de ceux qui maîtrisent un peu ça, connaissent la diversité des grades et des primes diverses et variées, au sein de la fonction publique, les primes deviennent de plus en plus importantes pour augmenter les salaires, augmenter les primes. Il a été mis en place pour permettre à ces passerelles, depuis quelques années, des mises à niveau de certaines primes. La première qui a été mise en place, c'est dans les grades. Alors, ils sont partis des grades les plus élevés, ils descendent progressivement, les A+, vers les catégories B et C. Il y a l'année dernière, c'était les administrateurs, donc les plus hauts rangs. Cette année, au 31 décembre 2011, il faut que les collectivités territoriales mettent en place donc la prime de fonction et de résultat qui remplace 2 autres primes.
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice de mission des préfectures.
Ouais. Là-dessus, donc, nous avons officiellement jusqu'au 31 décembre 2011 pour la mettre en place, mais c'est une obligation. Il s'avère que, donc, pour ceux qui ne savent pas, M. Roux, donc, nous quitte au 1er septembre. Nouveau secrétaire général, donc, prendra ses fonctions au 1er septembre. Et de manière à faire un contrat au 1er septembre, qui sera le contrat, je dirais, définitif, je vous propose d'appliquer, comme c'est légalement possible, cette nouvelle prime au 1er septembre pour que le nouveau contrat de secrétaire général prenne en compte cette prime. Sinon, il faudrait rester sur la base des primes d'aujourd'hui. En octobre, prendre cette délibération et modifier le contrat de secrétaire général. Cette prime n'étant d'ailleurs pas que pour le secrétaire général, puisqu'il y a deux agents de la commune qui en bénéficient, c'est l'urbanisme et le secrétaire général, donc cette prime, bien sûr, sera appliquée au 1er septembre aux deux agents. Il est fort probable que des arrêtés ministériels sortiront dans les mois à venir pour prendre la catégorie rédacteur, etc., et que progressivement, donc, cette uniformisation des primes d'État se fera sur l'ensemble des catégories et des grades. Je vous propose donc de prendre, comme le précise l'arrêté ministériel, cette prime suivant les critères que vous avez, sachant que les paramètres après, donc cette prime, nouvelle prime fait fonction d'une prime fixe, une prime, comme on dit, de résultat, donc fonction de la note de fin d'année, la deuxième partie de la prime évolue, la première partie, elle est liée à la fonction et fixe. Et il y a également des paramètres qui seront définis par un arrêté municipal. Certains d'entre vous connaissent peut-être ces nouvelles mesures.
Oui, une de mes questions, c'est que moi, je l'associe bêtement ou pas à son de plus en plus se répandre au mérite, la prime au mérite. C'est de ça dont il s'agit.
La deuxième partie, le résultat, c'est le mérite, si vous voulez.
Voilà. Voilà.
La deuxième partie, cette prime a deux volets, un volet fixe et un volet au mérite, si vous voulez l'appeler au mérite.
Oui. Et vous la décidez comment alors?
En fonction des critères qui sont définis dans l'arrêté et du mérite, le mérite, c'est quoi? C'est la note.
C'est la note de l'agent. C'est pas en fonction
de la note de l'épartiste.
Via la note, elle est donnée, comme tous les agents qui ont monté, le secrétaire général, les chefs de service qui donnent leur avis, le secrétaire général, et moi, mon avis, comme ça se passe partout, comme c'est fait.
Bon. Moi, je crois que c'est une nouvelle instauration de prime au mérite.
Non, c'est un remplacement de prime. Cette prime, c'est que tous les grades de la fonction publique, que ce soit alors, je ne sais pas, l'éducation nationale, qui est l'équivalent d'un administratif. Mais ils descendent au fur et à mesure.
Peut-être qu'ils descendent, bien sûr.
Voilà, là, ils sont descendus, mais c'est l'administrateur. Parce que je veux dire qu'un administrateur qui est de l'éducation nationale, s'il vient dans une collectivité territoriale, il garde la même prime. Il a la même. Et maintenant, c'est attaché.
Et là, on lui demande de voter quelque chose qui est obligatoire.
Qui sera obligatoire au 31 décembre. L'application est obligatoire au 31 décembre. Moi, je vous demande de l'anticiper pour permettre d'avoir le contrat qui ne soit pas modifié dans un mois. Parce que le contrat de Maurras, pour ne pas le citer, il prend en 1er septembre. Donc, il y aura un contrat sur la base d'un de prime et en octobre, il faudra modifier sur la base de nouvelles primes.
On en parlait à la radio pour les trois.
Voilà. D'autres questions? Il n'y en a pas qui contre? Oui. Une, deux, trois, quatre. Les autres qui s'abstiennent? Ben voilà, les nationales. Hein.
Oui, c'est que.
Ça remplace les brumes existantes, c'est pas une nouvelle prime, hein.
Oui, précise, hein.
Alors, je vous propose également pour... Il y a un débat qui dure depuis 4 à 5 ans sur la commune avec deux agents qui sont à la crèche, qui peuvent bénéficier d'une prime spéciale de suggestion. Qui ont fait que moult discussions, bon, ça n'a pas encore été fait. Et je vous propose de la mettre en pratique également à partir du 1er septembre 2011. Ces deux agents de la crèche qui peuvent bénéficier de cette prime spéciale de suggestion qui n'avait pas été votée par la commune, ce qui fait qu'ils ne la touchaient pas. Des questions?
Pas de questions, mais une précision. Là, cette délibération, je vais la voter. même si le principe des primes, pour moi, est un peu choquant, nous, c'est un pareil. Tout à l'heure, on a voté, et moi, je n'ai pas voté, non pas que je refuse d'augmenter les fonctionnaires, du moins qu'on augmente les fonctionnaires, c'est toujours pour instaurer une prime au mérite, là, je suis pour. Donc là, c'est le sujet de la montée, si je suis pour choquer le principe qu'on vote une prime, et là, c'est pas pareil. On ne vote pas une prime au mérite.
Mais à partir du moment où vous indiquez c'est comme cela, on ne va pas priver nos agents d'une prime en votant contre.
Mais pour le si on ne l'avance pas, ils n'ont pas.
Oui.
Maintenant, sur la finalité, je reprends. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ces deux primes ont fait l'objet d'une réunion de la commission paritaire, où nous avons élu et agent, la commission paritaire et élu agent, nous avons fait la même observation qui sera ajoutée au procès verbal, que, effectivement, c'est un moyen d'augmenter les fonctionnaires sans augmenter leur retraite, parce que, bon, on a un fonctionnaire qui dit au bout, et si, parce que, à force d'augmenter des primes, on n'augmente pas les bases, on n'augmente pas la grille, mais on augmente les primes, donc effectivement, ils ont un salaire qui est de plus en plus conséquent, qui est normal qu'ils augmentent la vie, à part que, comme l'indice, lui, il n'augmente pas, quand ils partent à la retraite, s'ils ont 50% de primes sur leur salaire, ils partent avec un salaire à 70% qui, en fait, est à 35%. Ça, on est tout à fait d'accord, mais problème, si vous avez un moyen aujourd'hui de faire que ça ne réalise pas, je suis preneur. Aujourd'hui, si on leur vote pas la prime, ils n'ont pas de prime. Alors c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas ces augmentations. Mais est obligatoire, je veux dire, si on ne la vote pas conformément à la réponse ministérielle, il y a zéro. Alors,
ça nous permet de un petit peu fort, sachant que notre vote avait mis en cause la réception de cette.
Si votre vote avait mis en cause, vous l'auriez voté?
Bah, évidemment.
C'est pour moi, puis on
est d'accord.
On la vote, mais effectivement, on est contre le principe, on n'en a pas d'autre solution. Ceux qui disent que vous avez voté, c'est votre droit. Je prends acte que s'ils n'avaient pas eu la prime, si une partie de la majorité avait pas fait la démarche de la voter, vous auriez suppléé la majorité en le votant.
Et voilà, on peut dire ça comme ça.
Appuyer sur le fait que la première prime, elle n'est pas exclusivement au mérite. Donc non, il y a une partie simplement. Donc voilà, sachez-le.
Bon, je n'ai pas fait voter par contre sur la deuxième prime, qui est contre, qui s'abstient dans l'unanimité. Alors, point 10. Je vous propose la création d'un emploi permanent. Vous savez que le service technique a un agent contractuel à mi-temps. Donc, le développement des travaux, des diverses relations avec les intercos, les travaux qui se développent, les appels d'offres, font que je pense qu'il est nécessaire que nous passions à un niveau supérieur et que nous ayons un directeur service technique qui est grade d'ingénieur, de manière à gérer un peu tout ce qui se présente de plus en plus. Pour cela, il est nécessaire donc de créer un emploi permanent qui sera donc sur les listes d'aptitudes qui paraîtra sur le.
Plusieurs choix sont possibles. Enfin, le choix premier, c'est la bourse de l'emploi du centre de gestion qui permet une diffusion départementale et même nationale, puisqu'il y a aussi des passerelles nationales des offres d'emploi.
Donc, suivant les critères qui seront définis et que vous avez, les candidats postuleront. Moi, j'avoue que cette bourse d'emploi est lue par les fonctionnaires d'une manière permanente, pas que par les fonctionnaires d'ailleurs, parce que le vendredi, il y a trois semaines et deux mois, le vendredi à midi est apparu que le poste de secrétaire général était disponible à la mairie de Grasse, depuis la semaine de départ. Dans l'après-midi, j'avais X appels, y compris pour pistonner un tel. Et le mardi, j'avais 12 à 15 lettres de postulants des quatre coins de France. Je suppose qu'au niveau de l'ingénieur, on va avoir 30 propositions, mais c'est déjà j'avoue que ça fonctionne, hein, c'est assez. C'est le sujet qui est le vendredi à midi, ça paraît à midi, les nouvelles listes.
Ouais, début d'après-midi.
Comment ça se précise tous les vendredis sur les listes qui sont d'attente, parce que là, alors, ça dégue. Bon, écoutez, tant mieux. Hein.
Bon, la question, c'était un poste qui était donc budgété à mi-temps en CDD.
Actuellement, oui, mais qui a été budgété à plein temps sur le budget.
J'ai pas souvent le budget de salaire qu'on avait mis en CDI à plein temps.
Et le poste de la com.
Ça avait été.
Avec le poste de la com, les deux postes. Les deux postes, il y avait la com et celui-là. Donc, mais là,
il se donc.
Donc,
celui-là remplacerait celui qui existe à l'heure actuelle ou c'est ce
qu'il y a. Ah non, non, en place, puisque le contrat est fini. Le contrat est fini. Donc, l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, le contrat est fini, ce qui veut dire qu'on n'a plus de directeur de service technique et qu'on fonctionne avec les agents en place. Puisque le contrat s'est terminé au 1er juillet.
30 jours.
30 jours. Voilà. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique. Alors là, c'est une création de poste. C'est une obligation technique puisque c'est dans le cadre d'une chaise musicale à la cantine. Nous avons donc le départ à la retraite au 31 décembre de M. Richard Flo. Il s'avère que M. Richard Flo part à la retraite le 31 décembre, mais pour des raisons de maladie, de congé, etc., est déjà à la retraite, entre guillemets, c'est notre avis, quoi, pour faire simple, entre son arrêt de maladie, les récupérations. Et qu'on ne peut pas tenir comme ça jusqu'à décembre avec personne, donc il faut qu'on crée un emploi avant que l'emploi de Richard Flo se libère puisqu'il est à la retraite pour embaucher sa remplaçante. Étant entendu que sa remplaçante est une personne qui est en place et qui fait les chaises musicales avec une autre personne qui vient du service nettoyage, entretien, et qu'on embauchera quelqu'un après l'entretien. Mais c'est sûrement mon poste. C'est toute une série de chaises médicales jusqu'à laisser. Lorsque cela est possible de faire de la promotion interne. Voilà. Voilà. C'est pour permettre la promotion interne. Mais pour ça, il faut créer ce poste puisque Richard est déjà sur le fauteuil. Le poste n'existe pas. Donc, quand Richard sera à la retraite, on supprimera le poste. Puisque c'est un poste vacant.
Alors, question stupide, mais pourquoi ça s'appelle création d'un emploi permanent puisque le poste existait?
Non.
C'est quelque chose qui n'est jamais.
Il existe, mais oui. Il est toujours dans le fauteuil. Il part en décembre.
Oui.
Quantitativement, le poste est créé. Monsieur Richard Faux, là, il est là sur les fichiers. Il n'est plus là à la cantine. Donc, pour embaucher quelqu'un qui vient de prendre sa place maintenant, il faut créer une case pour qu'il y rentre et après, je vais voir la case de monsieur Faux. Voilà. Donc, d'autres questions? D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Autorisation de dépôt de plainte. On a une histoire qui court depuis des années. Donc, j'ai essayé toutes les possibilités pour régler à l'amiable, y compris en nous déplaçant avec un huissier, un jour fait court, ça fait des années, des échanges de courriers. Il s'avère que je ne suis pas arrivé à résoudre le problème, qu'à mon grand regret, on est obligé de passer par une procédure juridique avec un dépôt de plainte. Voilà. Donc, je suis autorisé à déposer plainte pour que le problème dans ce quartier soit enfin résolu.
On ne peut pas le faire comme pour le débroussaillant ou les services techniques, le programme de santé, mais pour la facture, et là, ça passera par le
TPD. Eh oui, mais pour ça, il faut rentrer dans la propriété. Or, le pouvoir de police du maire ne permet pas de rentrer, puisque je suis allé sur place l'année dernière avec un huissier et une entreprise, donc ça a été fait, et que la personne m'a dit « Vous ne rentrez pas dans ma propriété ». Et l'huissier est reparti, et moi aussi, l'entreprise aussi. Comme on ne peut pas rater la propriété, il faut un jugement.
Le propriétaire,
vous voyez, ça va, mais pas... Il y a deux branches occupées, il y a deux trucs, vous voyez, ça traîne. Trois règles. Je crois savoir que les riverains ont eux-mêmes déposé plainte, ils ont perdu la plainte pour la raison que le riverain, c'est la commune. C'est la route, donc c'est la commune. Donc ils n'étaient pas en capacité de faire valoir leurs droits, parce que c'est la commission. C'est pour ça que l'être est amené, nous, au dépôt des faits.
Mais ça présente le respect de la loi.
Ben, ça présente le non-respect de la loi. Et que vous êtes quand même respectueux de la loi. J'ai des contribuables qui me disent, monsieur le maire, en fait, a appliqué la loi. Et comme c'est pas réglementaire.
Il y a des gens comme ça qui sortent à la hauteur des yeux des gamins quand ils passent à la hauteur de la loi.
Voilà, donc. C'est le bout du bout du bout du bout. J'ai tout essayé de ne pas faire. Il y a 2-3 adjoints qui se sont usés. Voilà, donc qui contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Bon, alors, je vous garantis. Ah, pardon. 3 Donc, je ne vous garantis pas le résultat, par contre, du jugement. Hein. Ça, je ne trouve pas, mais bon. On verra. L'inventaire des équipements existants du sang, comme tous les ans, comme tous les conseils. Il n'y a rien sur la commune. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, point 14. Vous souhaitez que je vous lise toute la délibe ou vous l'avez tous lu? Voilà, mais attendez, oui. Donc cette délibération fait l'objet d'un consensus avec certains petits amendements spécifiques à chaque commune ou à chaque territoire. Nous, entre autres, c'est le BIDAF, c'est le la Pougoubre, etc. Donc cette délibération est une délibération qui, sur son cadre général, est une délibération qui a été approuvée quasi unanimement par l'Union des maires et qui est en vote dans la quasi-totalité, dans la totalité des communes des Bouches-du-Rhône. Je crois qu'il y a une commune qui votera pour le schéma que je connais, sa commune d'Istre. Elle veut fusionner avec la ville de Martigues. La ville de Martigues est contre la fusion, nous aussi, car nous considérons que c'est une porte ouverte vers la métropolisation, puisque à partir de Martigues, ça permet à Marseille de bouffer le port de Fosse et donc d'aller sur la, de récupérer le port de Fosse. Donc, Istres, c'est leur droit. Sur Marseille, je vous rappelle, vous avez dû suivre dans la presse, suite à un débat de début juillet sur la création d'une métropole, la moitié des communes de la CUM d'aujourd'hui s'y étant opposées. C'est une machine arrière du maire de Marseille qui est pour la création d'un pôle métropolitain, c'est pourquoi nous sommes aussi d'accord, dans le cadre d'une future réflexion. Et après, nous souhaitons l'abrogation de cette loi que nous considérons comme pas bonne pour les collectivités territoriales et une redéfinition sur le territoire des Bouches-du-Rhône, puisqu'il semblerait que le préfet des Bouches-du-Rhône ait un peu dépassé ses prérogatives, et lorsqu'on a des renseignements qui nous tombent d'autres l'Union des maires d'un port de la région parisienne, les préfets sont beaucoup moins exigeants et beaucoup moins pressurants que ce qu'est le nôtre. Sur la partie bonjour. Voilà, donc c'est un consensus général, la gauche jusqu'à la droite, et en passant par le centre, sur le refus du schéma du préfet. Y a-t-il des questions?
Juste savoir si je pouvais le consulter, parce que j'ai pas eu le temps, entre la réception et même si on l'a voté, il faudra aller après consulter
le rapport du préfet. Ah ben notre position aujourd'hui, c'est de, puisqu'on a fait la seule interco, bon, il y a eu des négociations dans le quartier, dans le nord du département, où un accord s'est fait, où il y a la Croix-de-Vie, les Beaux-de-Provence, pour être simple, qui a été scindée en deux avec l'accord des communes, le choix des communes, qui est différent de celui qui a fait le préfet, une partie à Anne-sur-Arles et une partie à Anne-sur-Château-Renard. Château-Renard nous a confirmé qu'il n'était pas question pour eux, comme ça a été dit, qu'ils fusionnent avec Avignon pour sortir du département, donc ils restent, et ils sont d'accord également pour entrer dans le pôle métropolitain agréé à Marseille. Il y a, ça s'est réglé sur Cujolépin, je crois que c'est réglé également via une commune du Var qui ne voulait pas aller sur Marseille et qui va sur Aubagne, je crois que c'est réglé aussi. Commune de Gréas, tout ça rentre sur Aix, ça s'est réglé à la diable. La seule qui était l'ouverture sur le métropole marseillaise, c'était la fusion avec Martigues pour permettre à Marseille, comme je le disais, d'englober donc Fos, le port de Fos, puisque la continuité territoriale, à ce moment-là, Martigues y était. Donc Martigues est contre, les carcos de Martigues est contre, nous on est tous contre, et l'ensemble des volumes des maires est contre le projet général. Je dis qu'on est tous contre le projet général. Voilà, dans la large, sachant que pour que ce projet soit pas mis en place par le préfet, après le vote des communes, il faut qu'il y ait 2/3 de la commission départementale qui vote contre le vote du préfet. Ce qui, a priori, sera le cas. On attend la date du préfet. Et il faut que le préfet ait reçu toutes les délibres pour faire le pointage, pour qu'il réunisse la commission départementale et qu'il y ait le vote de la commission départementale, que ce soit refusé ou pas, mais s'il y a des 2/3, et à ce moment-là, on a 3 mois pour que la commission départementale fasse de contre-propositions sur l'aménagement, c'est là où on proposera le pôle de métropolitain. D'autres explications? Enfin, je pense que vous avez suivi la presse en long, en large et en travers.
Monsieur le maire?
Oui.
Une précision, pour savoir quelle est la proposition de base vis-à-vis de ce schéma.
Compte?
D'accord. Et là, le préfet, le schéma, ce qu'il nous propose, c'est que Ouest-Provence fusionne avec Marty. C'est ça.
Ah, donc c'est pas ça, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Alors moi, je suis contre déjà, j'ai intégré Martigues, en fait, parce que j'ai quelque chose contre Martigues. Alors, j'ai toujours eu le sentiment que, bon, on est 6 communes, ma position, c'est que on reste 6 communes.
C'est notre position. C'est pour ça qu'on dit, on ne bouge pas pour le moment.
C'est la question que j'ai le sentiment. Ensuite, par contre, le fait de refuser de votre côté, je n'ai pas bien compris le sentiment. Pourquoi refusez-vous catégoriquement d'aller à Marty? Vous l'avez dit, bon, il y a une commune de l'Ouest-Provence qui a accepté le schéma donc, du préfet, c'est-à-dire qu'ils aimeraient intégrer donc, avec Marty, c'est ici. Pourquoi nous, on refuse? Parce que peut-être il faudrait peut-être se rappeler comment nous, on a intégré l'Ouest-Provence il y a un demi de temps. Mais je rappelle au conseiller que pourquoi nous avons intégré Ouest-Provence en 2003. Moi, je me rappelle qu'on a fait une réunion au mois de juin 2009.
Tout le platane, dehors, il faisait
chaud. Et je me rappelle ce que vous avez dit, on avait intégré, vous voulez intégrer Ouest-Provence pour deux paramètres, deux raisons. Un, parce qu'à l'époque, ils allaient nous accueillir avec le même nombre de conseillers communautaires, parce qu'à l'époque, c'était 10-10-10. On devait intégrer, nous aussi, je pense, 10 conseillers également. Et deuxième critère, c'est parce qu'on allait se marier avec une intercommunalité riche.
1,7 million d'euros, c'est versé tout à l'heure. Donc, effectivement.
Maintenant, le préfet nous demande, Ouest-Provence, d'intégrer une intercommunalité, qui finalement, Martigues, c'est quand même assez réputé d'être une intercommunalité assez riche. Pourquoi maintenant, donc, vous refusez d'intégrer Martigues? Alors, vous avez un peu expliqué un peu tout à l'heure, vous avez dit, du moment qu'on a intégré Martigues, Marseille va intégrer Martigues, donc on va plus donner le préfet. Moi, je ne vois pas, le préfet n'a pas dit ça, vous l'avez dit. Pour moi, le préfet, ce qu'il préconise, c'est d'intégrer, fusionner Ouest-Provence avec Martigues. Il ne parle pas de Marseille.
Il n'y parle pas de Marseille parce que la loi ne lui permet pas de parler de Marseille. Il n'a pas le droit de faire une proposition de métropole. Par contre, la ville de Marseille a le droit de se créer en métropole et de fusionner et d'intégrer après. C'est la deuxième phase. Et comme Godin a bien dit qu'il voulait créer une métropole, qu'il a fait de marche en arrière, la porte est ouverte, mais ce n'est pas la seule raison. Mais je vous la signe. Voilà, alors, donc, j'ai pas...
Le sujet, c'est qu'il y a 56 ans, vous avez dit qu'on a intégré Ouest-Provence parce qu'ils sont riches. Alors, bon, vous m'avez peut-être répondu, vous avez votre sentiment, c'est que je voudrais qu'on reste politique au milieu.
Oui.
Voilà,
je ne vois pas, c'était pas que les 10 conseillers, c'était que nous étions dans une situation, d'abord, je vous rappelle, que quand on était en discussion, puisqu'on était sur Salon, et que j'ai pris quand même beaucoup d'élus à contre-pied en proposition d'aller sur Istres à l'époque, il y a eu ce fameux débat qui avait été clair, je me souviens certains qui s'étaient prononcés contre, parce qu'on était plus tourné. Je vous rappelle que j'étais venu du fait que le maire de Berre, à l'époque, considérait qu'il avait les sous et qu'il était le patron, et que nous étions tous des pingouins, puisque le maire de Pélissan est venu dans une réunion avec une photo de pingouins en disant les pingouins arrivent. et que donc moi rentrer dans une intercommunalité, pas en tant que partenaire, mais en tant que pingouin, est une chose qui nous convient, surtout que nous avions en capacité financière à l'époque, ce qui était pas le cas, mais c'est démontré, une capacité financière bien au-delà de la représentation de nos cartes de habitants, et que Clessus n'était pas encore sorti, et qui nous amenait des recettes qui nous permettaient de négocier avec une collectivité qui le prenait en compte, c'était le SAN, et que j'avais négocié avec le SAN d'anticiper les recettes de Clessus avec la construction de Robert Hossein. Je vous rappelle que Robert Hossein, c'est 10 millions qui ont été avancés avant les recettes. Avant que Clessus existe, on a construit Robert Hossein. Ça faisait partie des négociations. Et que nous étions des partenaires à part entière, la preuve, dans la discussion. Donc ce n'était pas qu'un problème de 10, même si nous sommes 9, c'était également d'être considéré, que la commune de France soit considérée à sa juste valeur en fonction des ressources qu'elle a menées via Clessus. Deuxième élément, effectivement, les recettes, et si vous parlez un peu avec des élus et des collègues, et quand on parle sur les compétences et sur ce que Ouest-Provence a amené, ce qu'aurait pu amener la GOPO, c'est un été, je crois qu'il n'y a pas photo, en termes de culture, etc., etc. Bon, donc effectivement, on a fait ce choix économique et de représentation d'aller là-bas. Aujourd'hui, effectivement, la communauté de Martigues est une des communautés qui a le plus de sous après le stade. La problématique, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que la clé de répartition, et là, d'abord nous sommes les seuls à être en SAN, c'est-à-dire à pouvoir investir dans des compétences qui ne sont pas des compétences communautaires. Deuxièmement, la clé de répartition de Martigues, c'est chacun repart avec ce qu'il a amené. C'est-à-dire que Martigues aujourd'hui repart avec la totalité des recettes qu'elle amène. Vous avez la commune de Fort-de-Bouc, qui a quelques recettes, mais qui n'est pas. Je veux dire, par rapport à la commune de Fos, qui amène 82% mais qui repart à 26%, si Martigues amène 82%, il repart avec 82%. Donc dans la modalité, or, comme les salles, si on fusionne, les salles qui sont plus que 4 tombent, et on va rentrer dans une schéma général qui est la collectivité territoriale telle qu'elle sont aujourd'hui, les salles vont sauter, on se retrouverait dans une situation où on apporterait à la ville de Martigues, mais elle ne nous apporterait rien. Donc elle peut être riche, mais elle le garde, comme vert, comme la glopole. Donc ça. Deuxièmement, si nous sommes pour des coopérations volontaires sur les transports, sur les déchets, etc., dans le cadre de volontariat avec partie, ce qu'on fait sur le SCOT et sur tous ces éléments-là, de manière volontaire, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord d'abord pour avoir à fusionner. Je rappelle que la ville de Martigues n'est pas d'accord non plus, parce que le SAN, il faut le dire aussi, a une dette de 250 millions, la ville de Martigues a zéro de dette, et qu'il faudrait qu'il partage notre dette. Donc nous avons dit, nous disons au préfet, nous continuons à collaborer sur le plan de volontariat et progressivement nous verrons comme dit Méthode. Et si nous rentrions dans une fusion de collectivités territoriales, il faut aller bien au-delà de Martigues et à ce moment-là, il faut faire comme je l'avais écrit au préfet il y a 10 ans, ça peut se retrouver, ce soit l'ensemble du pourtour de l'État de Berre avec l'Agropole, peut-être même Arles, à voir comment s'intégrer pour faire un pôle économique. Et Arles n'est pas si idiot que ça, car dans le cadre du port, on a l'ouverture sur le fluvial qui devrait se développer par rapport au problème de ferroutage, ces éléments-là, et avoir une vision beaucoup plus large du nord du département. Nous en sommes pas là, nous demandons à avoir du temps et à le faire dans le cadre volontariat. Voilà quelle est la position de la commune de Grance et de l'Ouest-Provence. Non, mais comme on le veut, dans les compétences qu'on veut, dans les délais qu'on veut, après d'avoir discuté de manière volontaire. Et que ce ne soit pas le préfet qui décrète « je vous marie, je vous fusionne », etc. Parce que nous avons des pas à faire encore dans les domaines de la fiscalité, etc., qui font qu'aujourd'hui, personne ne s'y retrouve.
Ne pas ouvrir la porte à la métropole,
on est alors, le truc essentiel, parce que derrière l'idée, quand même, on sait ce qu'il y a. Parce que pourquoi il n'y a que nous qui fusionnons? Pourquoi est-ce que nous, comme Viviane? C'est la question. Voilà ce que je vous ai en partie répondu. C'était pas compliqué. Donc, sur cette délibération importante, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Je me permets de vous rappeler que toute tendance confondue de droite et de gauche, avec des majorités à gauche, une majorité à droite, une minorité à gauche, non. Il y a quasiment partout des votes unanimes dans les conseils municipaux des éléments que j'ai. On dépasse le problème de clivage, on est bien sur un problème de philosophie, de rapport de l'élu avec le citoyen sur le territoire. Alors, c'est toi qui rapporte à vous, Dominique ?
Oui, bon, oui. Donc,
en point 15.
Point 15 et 16, hein, ils sont très liés. Hein. Vous savez que, comme chaque année, le 17 août, nous organisons une séance de cinéma en plein air. Et pour fixer les modalités de l'organisation, on est obligé, on passe deux conventions, une avec celle dessinée et l'autre avec la DSA, l'Association de défense du cinéma. Vous avez vu dans vos convocations le détail de ces conventions. Vous voulez que je vous les rappelle, vous voulez que je réponde à des questions, comme vous voulez. Donc voilà, on est au vote.
Ben c'est comme le bazar.
Avec ces deux organisations.
Qui est contre, qui s'abstient. Si bon, moi, 16. La 17, c'est pareil, c'est la suite. C'est 15
et 16.
Donc la 16, c'est la 15. Alors la 15, personne contre. La 16, unanimité aussi. Le point 17 est retiré. Et décision. Les décisions que j'ai été amené à prendre, vous l'avez, c'est les procédures adaptées, conseil d'État, etc. Rebond congé pour ceux qui sont en congé, qui sont les spécialement, bon congé pour ceux qui sont encore pas partis, et bon travail pour ceux qui sont encore là. La séance est levée.
Encore la canicule. Il fait tellement froid que les glaçons n'ont pas les glacés. Mais fin août, début septembre. Là, c'est pas. C'est une bonne idée, on n'a pas fini. On peut le faire, ça lui tient. J'ai plus pas fini, mais sur un profil d'ingénieur, vous êtes dedans. Non, c'est agro-technique à la politique. Ah oui, on crée un poste de jeune technique, c'est pour la dire. Peut-être que merci en cours pas un poste comme ça, parce qu'il est beau, c'est pour une personne technique. Non, c'est pas une. Ah non, il n'y a pas. Mais tu t'en vas, c'est pour une.
Non, c'est pour une observation.
C'est pas un service technique.